Vous voyez le nombre de questions qui ont été avancées. Hein, j'en ai recensé quelques-unes, j'en ai dû en oublier d'autres. D'abord, le grand thème de jusqu'où va la responsabilité de l'analyste, chevronnée ou pas. Hein, et puis, un thème amusant aussi. On n'a pas beaucoup l'habitude de parler de celui-là, c'est la durée, non pas des analyses, mais de l'analyste. Hein? Puisqu'il se trouve, n'est-ce pas, que c'est une profession où on ne prend pas de retraite. Et donc, les analystes, évidemment, avec le temps, ça dure, je ne sais pas si c'est dur, mais ça dure aussi. Donc ça, c'est un thème qui a été introduit par... par Sybille. Beaucoup de questions aussi, conclusion définitive, conclusion provisoire, hein. Y a-t-il des normes de la durée, et puis le thème du choix de l'analyste, en lien avec les problèmes institutionnels. On a souvent et beaucoup parlé de ça, à chaque crise on dit « Oh là là, oh là là !» Les problèmes institutionnels vont avoir des incidences transférentielles dans les cures. Hein? Bon, c'est un thème donc qui est connu, mais sur lequel on peut débattre. Je relève cette notion de garde analytique que j'ai dû voir ça quelques fois, je l'ai oublié. C'est de Freud, hein? Garde analytique. On pourrait faire beaucoup de développement là-dessus. Le thème de l'interruption, est-ce la chute du sujet supposé savoir? Il y a beaucoup de chutes de sujet supposé savoir chez vous, Eliane. À chaque interruption, tant qu'il tombe. Oui. Alors, voilà. Et puis, il y a le thème, le grand thème qui court dans tout l'exposé de Sybille. Théorie pratique, ça c'est le monstre du Loch Ness de la psychanalyse. Théorie pratique, la théorie ne nuit-elle pas à la pratique, etc. Alors bon, il y a plein de questions, vous choisirez celle que vous accrochez. Je vais commencer par poser une petite question, à chacune. Et puis pour laisser à la salle le temps de préparer, et puis ensuite vous répondrez, on prendra les questions. J'ai des choses à dire, mais j'y viendrai après. Alors Eliane, c'est amusant, les deux couples, le couple commun de la vie, de l'amour, et puis le couple analytique, couple nouveau selon Lacan. Alors, vous dites, les deux connaissent rupture et trahison. Alors là, je vous interroge sur ce terme, trahison. Ça, c'est un terme de votre cru?
Oui.
Parce qu'il n'est jamais employé quand on parle des interruptions d'analystes. Et même quand on entend des sujets qui protestent contre des interprétations, des silences, enfin la façon de faire de l'analyste, on parle d'erreurs, de mauvaises interprétations, de mauvais maniement du temps, de fautes, de ratés de l'acte, trahison, jamais. Alors, vous nous direz trahison. Et puis une autre question, je vous poserai bien, vous avez bien souligné que chez Freud, il n'y a pas de normes de durée. C'est très, très important. Et chez Lacan non plus. Je ne vois pas où on trouverait dans l'enseignement de Lacan quelque chose qui résonnerait comme une norme de la durée. Mais alors, je vous pose la question, vous parlez de conclusion définitive. Alors ça, est-ce que c'est une norme? La conclusion définitive, est-ce que ça échappe à la notion de norme ou pas? Bon, je vous pose la question. Sybille, il y aurait beaucoup de questions, mais j'en prends qu'une. Vous dites, en parlant donc de votre propre cure, que les moments cruciaux ont convoqué du psychanalyste. Bon, et vous ajoutez, bien sûr, il y a eu beaucoup de longs moments où, qui se passaient dans la confrontation du sujet au sens, à son histoire, etc. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça convoque pas du psychanalyste, ça ? Est-ce que le psychanalyste n'est convoqué que dans les moments cruciaux ? Le du psychanalyste, hein, j'ai bien entendu. Oui, oui. Voilà, c'est la question que peut-être vous pouvez préciser un peu ça. Je vous pose la question parce qu'évidemment, on a commencé à beaucoup entendre dénigrer le sens. Hein, la recherche du sens, l'élaboration d'histoire. Et donc, si vous précisez, ce sera utile, je pense, pour tout le monde. Voilà, donc, c'est les premières questions pour que vous ayez le temps de... Alors, qui va ? On n'a qu'un micro. Peut-être on peut prendre un autre micro, là, si vous voulez bien. De toute façon, on passera après à la salle. L'autre, le troisième, il marche pas. Il marche celui-là. Essayez voir. Il marche. S'il marche. Attendez, on va prendre celui-là en attendant parce que.
Oui, en attendant, on va prendre celui-là. Oui. J'ai séparé effectivement les moments cruciaux, mais bien sûr, il y a la présence. Je dirais qu'il y a une présence psychanalytique tout le long de la cure, mais il y a de la manifestation du psychanalyste à certains moments, bon, dans l'acte bien sûr, mais bien sûr qu'il quand je dis que l'analyse doit permettre d'initier le déroulement de la cure, ça en fait partie, mais et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais compris la première fois que j'ai lu le séminaire de l'acte psychanalytique, c'est-à-dire l'acte qui permettait tout le déroulement de la cure. Et c'est après, en le retravaillant, qu'il y a des choses qui se sont dégagées du côté de l'acte, incluant l'interprétation, etc. Des moments plus cernés, enfin plus. Mais oui, je parlerai plus de présence psychanalytique que du psychanalyste. Actif, j'ai envie de dire. voilà, ça dénote peut-être deux positions qui ne relèvent peut-être pas de la même chose. Et c'est peut-être pour ça que je sépare désir de l'analyste et acte psychanalytique.
Oui, ça, c'était aussi un autre thème. C'est...
Voilà, le désir de l'analyste permet effectivement tout. Enfin, permet tout le. C'est pour ça que je dis que ça doit être quand même un désir solide, parce qu'il soutient vraiment quelque chose de tout ce déroulement dans la durée, dans l'endurance, etc. Et que l'acte psychanalytique convoque peut-être quelque chose de différent.
D'accord. Alors, sur cette histoire de trahison, je crois que la trahison, c'est vraiment... oui, c'est de mon cru, évidemment, on le trouve ni... Enfin, je n'ai pas vu chez Freud ou chez Lacan. C'est vraiment la trahison que j'ai ressentie dans cette interprétation avec cet analyste. Voilà. Et j'ai senti réellement trahi. Voilà, je crois que c'était de cet ordre-là. Et à partir de là, j'avais plus rien à lui dire. Et j'avais plus envie de lui parler. Voilà. donc et je ne voyais pas comment je pourrais lui dire autre chose, puisque manifestement elle m'imposait ses propres interprétations, ses propres son point de vue, on va dire. Voilà, donc oui, je me suis sentie trahie et ça ne donnait plus du tout la possibilité de continuer quoi que ce soit avec elle. Ce qui ne voulait pas dire que pour autant la personne était en cause, c'était sa pratique. Et trahison aussi parce que d'un point de vue, j'avais eu l'occasion de la voir en cours, etc. Et que jusqu'ici, enfin jusqu'à ce moment-là, c'était plutôt quelqu'un de réputé, tant dans la ville en question, comme une analyste chevronnée. Du coup, je reviens au terme emprunté vers Sibylle, et puis sur le plan universitaire. Voilà, donc ça a vraiment été une trahison et qui mettait un arrêt. Voilà. Alors, l'autre question, oui, c'était sur la conclusion définitive. Je crois que la conclusion définitive, c'est cette conclusion qui est liée à l'acte analytique. Voilà. Moi, je le voyais un petit peu comme ça. Et qui vient éclairer. Qui vient éclairer tout le travail qui a été fait, toute la construction analytique. Je le voyais plutôt comme ça.
C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a des conclusions définitives, qu'il y a des conclusions qui, en fait, s'avèrent définitives. Quand l'analysant ne reprend pas, quand au bout de 20 ans, 30 ans, il n'a pas repris, on se dit, bon, c'était définitif. Bon. Mais la notion même de conclusion définitive, pour moi, est problématique. Elle est problématique parce que, d'abord, elle engage le temps à venir. Personne ne peut engager le temps à venir. Ni dans la vie, ni dans la psychanalyse. Je remarque que Lacan n'a jamais parlé, jamais, de conclusion définitive. Hein ? Il a parlé, en effet, qu'une analyse pouvait trouver une conclusion, que c'est même structural qu'il puisse y avoir une conclusion ou des conclusions d'analyse. Mais définitive, c'est trop dire, je trouve, personnellement, parce que, et non seulement il n'en a jamais parlé, Lacan, mais il a même fait l'éloge des conclusions pas définitives. Souvenez-vous, heureux les cas où passe manqué, ça laisse de l'espoir. Ça veut dire que si c'est bien définitif, plus d'espoir. Hein ? Et donc, je voudrais qu'on mette un petit tempérament sur la notion de conclusion définitive. On pense que la conclusion est définitive. Oui. Et combien de définitives en avons-nous vu qui s'avèrent ne pas l'être ? C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, le sujet qui avait pensé que c'était définitif, à l'occasion de s'apercevoir que peut-être il pouvait faire encore quelque chose dans la psychanalyse. Donc simplement, ça c'est pour dire, ne faisons pas une norme de l'idée qu'une analyse bien accomplie, c'est une analyse qui arrive à une conclusion définitive.
Oui, hein, oui. Oui, bien sûr. Oui, je ne retrouve pas dans le texte où j'ai mis conclusion définitive. Voilà, déjà. Cela dit, je l'ai mis comme
première
ça.
Première page.
Ah, bah, d'accord.
Parvenir à une conclusion définitive.
Mais je crois que je l'ai dit aussi par rapport à quand il y en a eu plusieurs. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas eu l'impression d'arriver à une conclusion dans les deux premières étapes.
Oui.
Voilà. Alors que j'ai eu l'impression d'avoir une conclusion dans la dernière. Je crois que l'ambiguïté est là,
d'accord,
aussi.
D'accord.
Voilà. Je crois que dans la dernière étape, il y a eu un acte. Dans les deux autres, il n'y a pas eu d'acte. Voilà. D'où la distinction.
D'accord. Bon, je vais vous donner la parole. Hein. Je ne vais pas garder le micro trop longtemps. Je le reprendrai après. Qui veut intervenir ? Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un micro baladeur ? Oui, il y en a un qui marche.
Je vais rester là. Non, c'est cette question de la trahison, là, telle que tu viens de le dire. Et ce que vient de dire Eliane, pour essayer de répondre à cette question de la trahison,
oui,
c'était qu'au fond, il y avait une différence entre le discours universitaire et le discours d'analyste. Peut-être ça peut être vécu comme une chute. Enfin, tu le dis aussi. Comme... Mais est-ce que c'est une trahison? Je ne sais pas. Mais tu l'as vécu comme ça. Et je me disais...
Voilà, elle l'a vécu comme
voilà,
ça.
Voilà, voilà. Et peut-être c'était du discours analytique, puisque ça t'a fait retourner voir un analyste.
Ah ben oui. Plus que jamais. Ça se tue. Mais c'était... Je pense pas que c'était exclusivement universitaire. Je peux pas développer là parce que c'est quelque chose trop personnel, mais je fais pas que ça.
Elle a interprété, si je... dans ce que vous dites, elle a interprété avec des termes qui n'étaient pas les vôtres.
Alors, elle était complètement à l'opposé. Enfin, voilà.
Ben oui.
Ça peut arriver.
Je sais pas, moi, je peux pas.
Oui. Mmh. D'accord. Oui.
Moi, j'ai une toute petite question. J'avais le micro, alors du coup, j'ai... C'est un hasard. Une petite question vraiment de détail, qui c'est une incompréhension de ma part, sans doute. Tu as parlé de enjeu du réel, mais est-ce que le réel peut avoir un enjeu? C'est pas plutôt le sujet qui... qui a des enjeux éthiques par rapport au réel, mais le réel lui-même, je ne vois pas très bien comment il peut avoir un enjeu. Ou alors c'est une formule que je ne comprends pas.
On prend peut-être diverses questions.
Oui, c'était pour en écho à, pour Sybille Guilaine. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion. Après tout, avec conclusion définitive, on en revient à expérience précaire. Qui se font écho. Et expérience précaire, pour moi, ça renvoie à analyse avec fin et analyse sans fin de Freud, parce que quand on le lit et qu'on le relit, finalement, l'analyse sans fin, il la met du côté de l'analyste. Le seul pour qui l'analyse pourrait être sans fin, c'est celui qui, sans cesse confronté à la pulsion non domptée, pourrait voir lui-même quelque chose se réveiller en lui. Donc, est-ce que ce n'est pas ça simplement que ça vient pointer, cette expérience précaire, la façon dont l'analyste est le seul à se tenir sur le fil même de ce qu'il en est de la psychanalyse. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est ça pour moi que ça éveille.
Comme écho.
Oui.
Freudien.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Vous voulez répondre?
Face au réel, bon, j'ai dit un peu rapidement comme ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est, enfin, c'est cette confrontation un peu brutale et difficile qui arrive comme ça, et que ça pose une question éthique. C'est comme ça, en tout cas, je voyais. Qu'est-ce qui me venait là après? Venait quelque chose après Agnès, je ne sais plus, je repensais ça. Je crois que ce qui faisait trahison, c'est oui, bien sûr, vous avez raison, c'était une interprétation qui n'était pas la mienne, mais c'est surtout que ça ne permettait plus aucune association. Après, il n'y avait plus rien de possible après ça, quoi. Vraiment, quelque chose d'une telle violence. Ah ouais, pour le coup, ça a été définitif et radical. Hein. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. Il n'y avait plus rien à dire. Je n'avais plus rien à lui dire. Je crois qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et tant au niveau du transfert, qui est donc passé par le discours universitaire, que il n'y avait plus rien, quoi. Là, ça remettait tout en cause. Mais c'était pas de mon fait. J'ai vu comme ça. J'étais très très déçue. Enfin, vraiment.
Oui, ce que vous disiez là me faisait penser au titre de Paula Oléanier, La violence de l'interprétation. Une interprétation, c'est toujours violent. Le problème, c'est que c'est une violence. Le savoir-faire de l'analyste devrait faire que cette interprétation qui forcément va trahir ce que l'analysant pense de lui-même à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
C'est forcément violent. Le problème, évidemment, c'est qu'une interprétation, il ne faut pas qu'elle fasse partir l'analysant.
Voilà.
Hein? Là, on n'a pas à se demander qui a raison, qui a tort. Mmh. C'est raté. C'est raté. C'est de raté complet. Et au fond, comme vous l'avez bien dit, néanmoins, ça n'empêche pas de repartir. Ce qui indique qu'il n'y avait pas de chute du sujet supposé savoir, selon moi.
Oui,
il y avait une rupture avec cette personne, mais il n'y avait pas de chute du transfert. Sinon, vous ne serez pas parti avec quelqu'un d'autre, hein, il me semble. Moi, je voudrais parler un petit peu, s'il n'y a pas d'autres questions immédiates, des analystes chevronnés. Ça m'amuse beaucoup, cette affaire. Parce que je vous fais remarquer que c'est un chevronné de chevronné qui le dit. Mmh. Lacan, quand il dit ça, on est en 67, pour être chevronné, il est chevronné. donc, disons qu'il peut se le permettre. Hein, il peut se le permettre, parce que il n'a pas dit ça pour engager une bagarre des anciens et des nouveaux, ça c'est certain aussi. Mais la question sérieuse que posent les textes que vous avez cités du petit discours, c'est effectivement, quel est l'effet, est-ce qu'il y a un effet de la durée de l'expérience en tant qu'analyste ? On parle de la durée pour les analysants, hein, mais là, ça déplace la question du côté de l'analyste. Le fait d'être analyste depuis peu, ou depuis un temps moyen, ou depuis longtemps, est-ce que ça change quelque chose ? Alors, l'idée de Lacan, il est certain que ça change quelque chose, selon moi, mais il est aussi très difficile de dire quoi. On sent bien que ça change quelque chose, mais le dire précisément et pas d'un point de vue purement subjectif est extrêmement difficile. Alors, je me disais, qu'en a dit Lacan ? Lui, il a dit que ça avait un effet, mais il n'a pas dit lequel. Dans les textes que vous citez, sauf qu'un jeune analyste pourrait percevoir des choses que l'autre ne laisserait passer, quoi. Ça va pas loin. Par contre, il a insisté à plusieurs reprises sur ce thème, hein, pas seulement dans le discours au psychiatre. Il est revenu plusieurs fois, et par exemple dans les textes, dans des propos plutôt, où il dit « les AME, ça ne m'intéresse pas ». Les AME, ça ne m'intéresse pas, parce qu'ils font ça par habitude. Donc c'est l'idée... Effectivement, et d'autres textes où il dit si quelqu'un est seulement capable d'appuyer sur les bons boutons, faire des interprétations à bon escient, pas trop violentes, ça n'est pas non plus suffisant. Bon, et donc, fonctionnaire aussi, l'analyste fonctionnaire. Bon, alors qu'est-ce à dire l'habitude. Je ne crois pas que ça vise vraiment le savoir-faire analytique ou l'acte analytique. Je crois que ça vise plutôt le rapport de la personne, de l'analyste, à ce qu'il fait. Hein? C'est-à-dire que ça fait partie de ces multiples efforts que Lacan a fait pour inciter les analystes à penser à ce qu'ils font. Il ne suffit pas de le faire, et il ne suffit même pas de le faire sans provoquer interruption, indignation, rupture intempestive. Il ne suffit pas de le faire, il faut encore penser ce qu'on fait. Ça, c'est extrêmement insistant chez lui, et il le dit encore pour la passe. On sélectionnera ceux qui donnent des preuves, qui pensent un peu ce qu'ils font. Alors... Évidemment, de ce point de vue-là, la durée n'est pas très favorable en moyenne, parce que quand on débute dans l'analyse, et on le constate, hein, quand on, les jeunes, enfin c'est pas des questions d'âge, hein, jeune, vieux n'est pas le bon terme, mais quand on commence une pratique d'analyste, on a tellement de questions, on se questionne tellement, on est tellement, comment dirais-je, incertain sur son acte propre, que... On s'interroge sur est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire, etc., etc. Les analystes qui ont 20 ans d'analyse, d'expérience derrière eux, c'est vrai qu'ils ont cessé de se demander à tous les tournants. Ils n'y survivraient pas d'ailleurs si ça durait toujours. Bon. Et donc, au fond, Lacan considère que la durée de l'analyse émousse l'inquiétude qui réveille le jeune analyste. Et donc, il cherche à les inquiéter. Il a toujours cherché à inquiéter les analystes, pas par méchanceté, mais pour les rajeunir, les empêcher de vieillir. Bon, et il est vrai que la passe, même le dispositif de la passe a un peu un effet de poil à gratter quand même dans les institutions, hein, c'est bien clair, pas seulement quand on le prend vraiment au sérieux, mais l'invention du dispositif de la passe a été un poil à gratter institutionnel dans le mouvement analytique qui a contribué. Alors il y a les pour, il y a les contre, peu importe, tout ça c'est l'écume, mais qui a contribué à poser des questions, à faire reposer des questions. Donc voilà, comment ne pas vieillir. Eh bien, ne pourront pas prendre sa retraite, voilà. Oui, voilà. Garder un peu d'inquiétude, un peu d'intranquillité.
Travailler plus pour rajeunir.
Mais ça dépend quel travail. Attention, c'est pas travailler pour travailler. Parce que qu'est-ce qu'on travaille dans notre milieu ? Là, vraiment, on peut pas dire qu'on soit en déficit de travail. Seulement, oui, c'est, il faut travailler. Bon, il y a travail et travail, disons. Voilà, moi, je voulais dire ça. Est-ce que vous avez trouvé d'autres questions entre-temps ou remarques ? Colette, prenez le micro.
Dans le premier exposé, Lydie Grandet faisait part de son mécontentement, de sa surprise, quand justement l'analyste chevronné chez qui elle allait en contrôle lui avait dit, elle qui était très inquiète par ce qui se passait pour ce nouvel analysant, lui avait dit, maintenant vous pouvez mettre le pilotage automatique. Ce qu'on pouvait prendre du côté, ne vous inquiétez pas. Et ce qu'il avait tout à coup violenté, parce que ça pointait justement, chevronné égale endormi. Elle avait commencé d'ailleurs son exposé comme ça, autour de ne mettez pas le pilotage automatique en permanence, en tout cas.
Alors, moi je dirais bien aussi quelque chose sur la responsabilité de l'analyste, hein, que vous avez opportunément soulevé. Et là, qu'il soit chevronné ou pas chevronné, c'est vraiment une question qui se pose à tous les étages de l'expérience analytique. Qu'est-ce qui revient dans une cure? Quelle est la responsabilité qui revient à l'analyste? Alors, qu'il soit responsable, c'est, là aussi, c'est une évidence, mais difficile à mettre en évidence et difficile à traiter, parce que, évidemment, attendez, on ne peut pas traiter la question en se tournant vers les erreurs que font les collègues et qu'il y a de bonnes âmes qui vous rapportent, toujours, bien sûr. Hein. Bon, donc, la responsabilité, c'est pas comme ça qu'on peut aborder. Et je remarque, c'est quand même très intéressant, il faudrait faire le recensement des textes, des propos que je vais énoncer, mais quand c'est les analystes qui parlent, quand les analystes parlent de l'interruption d'une cure, de l'interruption qu'on considère malvenue, vous remarquerez qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de charger l'analysant. On le voit dans des expressions du genre c'est sa résistance, il ne veut pas, oui, il ou elle ne veut pas savoir, il n'accepte ou elle n'accepte pas le manque, horreur de savoir, enfin tout ça, ça pousse la charge du côté analysant. Et quand c'est les analysants qui parlent, ils font exactement la même opération, on l'a entendu ce soir, c'était limpide, à savoir, l'analyste a fait une erreur. Non, aucun des deux ne peut se tromper. C'est ça qui est embêtant. Hein? Et en fait, je me disais, comment prendre ça de façon qui dépasse un petit peu, qui passe au-dessus des positions subjectives de celui qui parle. Hein? Il me semble que Lacan nous a donné un instrument quand même. Et on a même le mathème de la responsabilité totale de l'analyste. Pas partielle, totale, absolue. Hein? C'est le mathème de la ligne supérieure du discours analytique. Ça s'écrit A, flèche S barrée. Et ça, ça désigne quoi? Ça désigne le fait que l'analyste est en position de cause. Cause. C'est lui qui cause le processus. L'acte, c'est ça. Hein? Causer le processus. Et ça commence du premier jour au dernier. Et quand ça s'arrête, c'est que la cause a connu une chute. Hein? C'est moins la chute du transfert que la chute de la cause, une interruption d'analyse. Alors, donc à cet égard, effectivement, c'est une responsabilité totale. Lacan pouvait même dire, engager quelqu'un dans une analyse, c'est un risque absolu. Risque absolu. Propos extrême. Hein? Bon. Alors, ce qui fait apparaître autre chose, c'est que il est à la place de l'objet cause, cause de l'analysant, sauf que c'est l'objet de l'analysant. L'analyste se fait de l'objet cause de l'analysant. Et ça, ça ne s'écrit pas avec la flèche de la première ligne du discours analytique, ça s'écrit avec le poinçon. S barré, poinçon de A. Et donc, il doit être la cause, mais la cause, elle est déjà là. Il est le tenant-lieu d'une cause qui est déjà là. Et comme, quand même, dans l'analyse, on a affaire beaucoup à des sujets qu'on dit névrosés, et que le névrosé se caractérise, je ne crois pas que personne conteste cette affirmation de Lacan, se caractérise parce que Lacan a appelé un désir instable, douteux en sa problématique, autrement dit, une cause vacillante, voire à éclipse. Alors là, la toute responsabilité de l'analyste à la place de la cause, on aperçoit qu'elle est totalement relative aussi au fantasme analysant. Et donc, ça fait une belle bande de Möbius, hein, si on y réfléchit. Bon, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est qu'on passe comme ça. Et donc, bien sûr que l'analyste, il est responsable, et l'analysant aussi. Et donc, c'est ça, je trouve que c'est très précieux que Lacan, avec ses mathèmes, nous permette d'aborder ça de façon moins anecdotique, au fond, que quand on prend les épisodes que tout le monde connaît, hein, dans un sens et dans l'autre.
Oui, allez-y, prenez le micro. Les conditions qu'Eliane me permettent de
continuer d'utiliser à propos de la trahison. Si je comprends, c'est une façon d'illustrer ce que vous venez de dire.
Oui.
A, flèche, est barré. L'analyste est cause. Et donc, si ça s'interrompt, c'est de sa responsabilité. S barré, poinçon, petit a, c'est pris dans le fantasme de l'analysant. Donc, je fais la supposition sans que tu en dises plus que trahison est pris dans le fantasme. Enfin, que trahison est un élément du fantasme de l'analysant.
C'est ce que je n'avais pas osé lui dire. Il fait une interprétation.
C'est une proposition. Tu nous l'as dit tout de suite avec les histoires d'amour. Voilà. Les couples. Je ne peux pas aller.
Ce que je voudrais dire,
bien sûr que le mot trahison ne peut qu'être pris dans sa sémantique.
Voilà, mais c'est...
Ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, tout ça, c'est pris. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est autant comme on peut entendre les choses du côté de la faute de l'analyste, mais qu'au bout du compte, ce que j'ai pu vivre à certains moments comme ça, d'abord parce que cet analyste, la trahison, c'est aussi parce que c'est arrivé prématurément, ce qu'il a dit. Oh là! C'est arrivé prématurément, mais justement, c'était tout à fait judicieux, son interprétation, sauf que c'était prématuré. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire. Après, dans l'après-coup, ça m'est paru tout à fait judicieux, mais c'était prématuré à ce moment-là. C'était pas le moment, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose pour cela. Mais ce que je veux dire aussi, ce que je voulais montrer, c'est que à travers ces difficultés, mais c'est moi, c'est ce qui m'a fait avancer dans mon analyse. Et c'est, je le dis à la fin, enfin, sans ça, j'y serais jamais arrivée comme ça. Enfin, voilà, il a fallu tout ça pour que j'en arrive à choisir, à m'orienter de plus en plus vers l'analyste qui vraiment pouvait soutenir tout cette cause. Voilà, cette cause du fantasme, enfin, qui s'y prête bien. C'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, c'était une bonne chose. Même s'il y a eu des moments effectivement difficiles, de découragement, de trahison, tout ce que l'on veut, bien sûr.
Alors, Marc, vous voulez actuellement...
Oui, juste un mot pour défendre la position d'Eliane, qui n'a pas besoin d'avocat pour autant. Je me souviens d'une remarque un jour de Colette Solaire qui disait « Il n'y a pas d'erreur technique, il n'y a que des fautes éthiques. »
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, moi je crois aussi qu'elle avait raison, oui. Oui, et donc, effectivement, Lacan évoque ça, je crois, très tôt, dans l'intervention sur le transfert, à condition, la vacillation calculée de la neutralité. Il y a à la fois le côté traumatique de l'interprétation, secouant, violent, il y a une violence de l'interprétation, et en même temps, c'est vrai qu'il y a le tact qui fait que c'est pris. C'est pris, on ne peut pas tout mesurer de la façon dont c'est pris. Et là, il y a la responsabilité. Moi, ce soir, je suis d'humeur conciliante, je dirais qu'elle est partagée.
Mmh. Oui.
Oui. Je ne suis pas toujours d'humeur conciliante. Alors, donc...
Profitons-en.
Donc, par ailleurs, pour les fins d'analyse qui sont conclusives mais pas définitives, nous avons quand même un Rubicon. On peut gloser sur la façon dont on y arrive, si c'est doucement ou d'un coup, ce qu'on peut causer de quoi il est fait, mais tout le monde s'accorde sur l'apparition à un moment de quelque chose qui n'était pas là avant, le désir de l'analyste. Là, on est tous d'accord là-dessus, chez Lacan. Donc, il me semble quand même qu'une interruption avant l'émergence du désir de l'analyste, ça n'est pas la même chose qu'une interruption après. Et évidemment, ça pose la question que Colette a développée à sa façon, du devenir de ce désir de l'analyste. non seulement avec le temps, effectivement, mais aussi avec les accidents de la vie, avec les accidents de la vie institutionnelle. Et là, on voit effectivement d'énormes disparités, énormes. Et c'est d'ailleurs une question, peut-être, je ne sais pas si c'est pour l'an prochain, mais là, pour les analyses chevronnées, c'est effectivement les avatars, le destin du désir de l'analyste. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, c'est vrai. Il y a une dimension de précarité, mais quand même, qu'est-ce que vous en pensez? On peut supposer qu'il y a un avant et un après.
Ouais. Oui, justement, l'école est un lieu de culture du désir de l'analyste. L'école est un lieu de culture du désir de l'analyste. Vous savez, c'est comme les laboratoires, on met des petites plantes. Oui. Sur la responsabilité de l'analyste, je voudrais quand même citer une phrase qui me fait beaucoup cogiter, de Lacan, justement, où, quand il dit, justement, c'est pas qui évite l'opposition que tu rappelais, faute technique, faute éthique. Et il dit, l'analyste n'est responsable que dans la limite de son savoir-faire. Et ça, le savoir-faire... Comment vous entendez ça? Hein? Ah, ben... ah, ça me parle beaucoup, pratiquement. Sur le plan pratique, ça me parle beaucoup. Mais... Parce que, justement, le savoir-faire... Le savoir-faire, c'est quelque chose qui existe, c'est sûr. Il y a des différences de savoir-faire. Mais ça n'est pas possible de définir le savoir-faire en termes de savoir. Ça ne s'apprend pas, le savoir-faire. Ça tient à l'être. Et il dit ça, pas par hasard, dans le séminaire Le Symptôme, quand il parle du savoir-faire de l'artiste. Hein ? Savoir y faire, c'est autre chose que le savoir-faire. Il y a savoir y faire. Savoir y faire, c'est plus alors du côté les chevronnés, on pourrait dire, qu'ils acquièrent quelque chose du savoir y faire. Je dirais, en français, ça résonne bien dans mes oreilles comme ça. Savoir-faire, c'est une phrase, effectivement, on ne va pas la traiter ce soir, mais ça mérite réflexion. Hein. C'est un très rare de voir Lacan mettre un bémol sur la responsabilité de l'analyste. Hein. Et ça met un bémol. Ce qu'il ne sait pas faire au niveau du savoir-faire, bah, voilà, il ne sait pas le faire. Bon, ça c'était pour... Je voulais terminer, enchaîner sur une chose que tu disais, mais alors j'ai un peu oublié. C'était quoi? Bon, ben j'y reviendrai après. Qui veut le micro? Sol.
Ça ne vient pas juste à cette articulation théorie et pratique. Parce que tout à l'heure, quand vous opposiez théorie et pratique,
ça ne s'oppose pas. Ça s'articule
C'est intimement impliqué tout le temps. Alors que le savoir-faire est quelque chose un peu autre. C'est au-delà de la pratique et
D'accord. Sol, qui a le micro là?
Il est là.
Qui a le micro? Il est là. C'est Sol qui a demandé le micro là. Du moins, j'ai pas vu s'il y en a d'autres qui l'ont demandé.
Il y a quelqu'un d'autre là? Oui, c'était un autre point, une petite remarque. J'ai apprécié une expression utilisée par Sybille Guillem. Qui parlait de la singularité de chaque cure, la singularité de chaque analyse. Vous ajoutiez que cela dépend aussi de l'analyste. Et en fait, je me disais que la singularité de chaque cure, je trouve que c'est très, très, très vrai, était peut-être en lien avec ce que rappelait. Eliane, de cette remarque de Lacan au début de la préface de 76, où il dit que la psychanalyse se pratique en couple. je me disais que la singularité de chaque cure tient à ça, c'est qu'il y a une singularité de chaque couple, ce que d'ailleurs l'exposé d'Eliane a illustré à sa façon. Hein? Voilà, c'était cette petite remarque.
Il y avait donc quelqu'un qui avait demandé la parole et que je n'avais pas vu.
Oui, c'est à propos du savoir-faire. Il me semble qu'on peut comparer le savoir-faire de l'artiste et le savoir-faire du psychanalyste. Il me semble qu'il s'apprend le savoir-faire justement avec la prise de conscience de ses erreurs, de ses manquements et surtout de saisir quand on se trompe, mettons, dans la conduite d'une cure, de ce qui peut se rattraper, de ce qui peut se saisir. Il me semble, voilà, c'est ce que j'aperçois. Et je suis d'accord avec Colette Seppel lorsqu'elle dit qu'en effet, c'est dans l'articulation de l'expérience et de la théorie. Et quand vous disiez, sur l'apparition, que la singularité d'une cure tenait justement au couple, te tient aussi. Parce qu'en fait, la chose qui se passe, c'est quand même qu'il y a une transformation aussi bien de l'un que de l'autre dans une expérience analytique. Dans chaque expérience analytique qu'un analyste, conduit, soutient, plus exactement, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas la même chose puisque les relations sont asymétriques, mais qui s'apprend aussi bien chez l'analysant et puis qui s'apprend, je suppose, chez l'analyste.
Moi, personnellement, je ne pense pas que le savoir-faire s'apprenne. Le savoir-faire de l'analyste. Ce qui s'apprend, oui, il y a un apprentissage, mais ça relève du savoir y faire, ce qui s'apprend avec l'expérience. On a fait des erreurs, on les évite la fois d'après. Savoir-faire, pour moi, ça ne s'apprend pas. Et je vais vous dire, moi j'ai vu faire Lacan des choses qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables de faire. Et ça tenait à lui, ça tenait pas, ça tenait à son être, disons. Au niveau du savoir-faire, je crois pas que ça s'apprenne, mais bon, c'est un débat qui n'est pas capital, peut-être.
Ah, je suis désolé parce que j'allais y intervenir.
Ah ben vas-y.
Oui, parce que moi j'avais l'idée inverse, que le savoir-faire c'était quelque chose qui justement pouvait s'acquérir. J'entendais pour moi une des représentations peut-être la plus nette du savoir-faire de l'analyste, c'est un savoir s'effacer. C'est comme ça que je me le représentais. Savoir s'effacer d'abord par rapport à son propre fantasme, grâce à sa formation, etc. Et ensuite grâce à une certaine façon de savoir répondre au sujet. Évidemment, il y a effacement et effacement. Alors, il y a l'effacement du chevronné. Et pour ça, l'exemple pour moi paradigmatique et traumatique a été il y a quelques années, à l'occasion d'un congrès qui n'était pas de notre association, mais de collègues tout à fait honorables. L'un d'eux qui a commencé son intervention, j'ai déjà raconté mes expériences traumatiques, je les raconte volontiers, qui a commencé son exposé sans note et en disant, il y a 10 ans, c'était sur les entretiens préliminaires. Il y a 10 ans, j'aurais fait un exposé très architecturé, très construit sur les entretiens préliminaires. Aujourd'hui, je fais tout autrement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est pas penser l'expérience, c'est cesser de la penser parce que c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est une façon de s'effacer, qui consiste à parler, effectivement, à tout le monde, alors que Lacan avait une façon de s'effacer qui donnait à chacun le sentiment qui lui parlait. Et les anecdotes qui courent sur Lacan, des réponses qu'il a faites à l'un, à l'autre, c'est quand même cette façon de renvoyer à l'autre son discours, sans se mettre en travers.
Oui, bon, ce serait un thème, tout ce qui s'apprend, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, on se plie à la structure, au fond. On apprend ce qu'il ne faut pas dire, on apprend ce qu'il faut... qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Mais quand on parle de son savoir-faire à chacun, c'est justement pas ce qui est commun à tous les analystes. C'est ce qui est propre à une personne qui est en place d'analyste, je crois. Bon, attendez, c'est sur ce point ?
Oui.
Allez-y, allez-y.
Ça ne veut pas dire pour autant, moi je suis d'accord avec vous, simplement j'ajouterais, ce n'est pas pour autant que ce savoir-faire est là dès le départ d'une pratique.
Ça, je ne sais pas.
C'est l'idée que je m'en fais.
Oui, peut-être. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y avait... Ah bon, allez-y.
Là-bas. Que le savoir-faire donc ne s'apprend pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le constituer en savoir qui puisse être réutilisé quelque part à nouveau pour être répété. Est-ce que ça veut dire qu'il faut alors plutôt le situer du côté de, par exemple, de la création, comme l'artiste peut créer
L'analyste n'est pas un artisan. On peut apprendre à faire un pot, puisque Lacan prend toujours le potier comme l'exemple de l'artisan. Ça s'apprend. Ça place effectivement l'analyse plus du côté de enfin, il y a une part, ça indique qu'il y a une part qui suppose un peu d'inventivité propre, qui n'est pas ce que tout analyste pourrait partager, enfin... Le style, oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais, moi, intervenir sur un autre point, si vous le permettez, parce que on a évoqué à plusieurs reprises, Sylvana, vous aussi, aujourd'hui, les trois temps, le timing de l'analyse à partir de la référence de Lacan, du temps logique. Hein, qu'il a construit, pas pour l'analyse, mais c'est un sophisme qui peut servir d'apologue pour le temps de l'analyse, le moment de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Hein. Et alors ça, je me disais, il faut quand même peut-être tenir compte des autres propositions que Lacan a faites pour serrer les périodes de l'analyse, parce qu'il y en a d'autres. Ça, l'instant de voir, le moment de comprendre et le moment de conclure, c'est un temps épistémique, hein, qui se réfère à ce qu'on apprend dans l'analyse, en fait. Vous prenez la direction de la cure. Vous avez trois temps aussi, mais ce n'est pas les mêmes. C'est trois temps passionnels. Pas des temps de l'épistémé, c'est des temps de la passion transférentielle. Premier moment, l'énamoration primaire. Ensuite... La période moyenne, et à la fin, comment dit-il, je l'avais noté quelque part, il dit au troisième temps, la trame de satisfaction si difficile à rompre qu'elle dépasse parfois les moyens analytiques. Vous voyez ça? L'énamoration primaire, la période seconde, qui est en gros la période de l'élaboration, celle justement où, comme vous disiez, on suit son histoire, le sens, tout ça, c'est indispensable dans l'analyse, il n'y a pas d'analyse sans ça. Et à la fin, la trame des satisfactions, si difficile à rompre qu'elle dépasse parfois les moyens proprement analytiques. Alors ça, si ce n'est pas une phrase qui nous parle d'une durée impossible. Ah, oui, c'est vrai, il est 11h. Une durée impossible à comprimer, qu'est-ce que c'est? Après, on a d'autres temporalités dessinées par Lacan. Bon. Oui. On a d'autres temporalités. Proposition de 67, c'est deux temps. C'est plus trois. C'est jusqu'au virage de passe et ensuite la période qu'il définit très clairement dans l'étourdi. L'analyste
continue à causer le désir, mais on n'est plus dans l'élaboration. Hein? Alors évidemment, on pourrait se dire, les trois temps, ils sont peut-être avant le virage de passe, hein, certainement. Et puis, il y a encore la préface. Et dans la préface, c'est pas clair, les temps. Ça, donc j'en parle pas, il faudrait travailler pour justifier. Donc c'est intéressant parce qu'on ne peut pas se contenter de moment de voir, temps pour comprendre, moment de conclure. Hein. Oui, oui. Ce n'est pas des temps homogènes. D'accord. Écoutez, on va arrêter, hein, parce que...
Ça tombe la boue.
C'est pas le temps de conclure, c'est le temps de s'arrêter.